Radio Sta, la web radio
de Saint-Amand.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Sta pour notre toute première émission de cette année scolaire.
Alors que nous entamons la quatrième rentrée de notre web radio, de nombreux nouveaux journalistes en herbe sont venus rejoindre notre équipe.
Mais cette année, nous avons également la chance et l'honneur d'inaugurer un tout nouveau studio radio. Désormais, nous enregistrons nos émissions quasiment comme de vrais professionnels.
Merci donc pour votre soutien et votre compréhension pour cette première enregistrée en direct. Mais ne perdons pas une minute de plus, voici le sommaire de l'émission.
Nous commencerons par l'actu Saint-Amand avec une information essentielle pour tous, la nouvelle restauration scolaire. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui a changé? Vous en saurez plus dans un instant.
Dans l'actualité mondiale, nous reviendrons sur les Jeux Olympiques qui ont marqué notre été à tous. Qu'en avez-vous pensé? Quels ont été vos moments préférés? Nous avons interrogé quelques élèves pour mieux le savoir.
Sport ensuite. L'actu sport sera consacré à la grande rivalité de nos deux grands clubs basques, l'Aviron Bayonnais et le Biarritz Olympique.
Côté actu local, nous vous expliquerons tout sur la rénovation des médiathèques d'Anglette et Bayonne, toutes les deux en grands travaux actuellement.
Nous passerons ensuite à la Minute Anglaise qui sera consacrée aux traditions d'Halloween, puis à la Minute Espagnole, dans laquelle nous vous présenterons le célèbre Dia de los Muertos mexicain.
Avec tout ça, vous aurez sûrement un petit creux. Sarah et Louison et Daphné vous donneront dans la cuisine de Radio Sta la recette d'un cookie en forme d'un dentier un peu étrange mais délicieux.
Un peu de culture pour terminer en beauté. Nous vous ferons découvrir la série de livres d'aventure Cherub ainsi que le film drôle et fantastique Beetlejuice, Beetlejuice. Vous êtes prêts?
Alors c'est parti! L'actu Saint-Amand.
Depuis la rentrée, il y a eu du changement à la cantine. Bruno et son équipe sont toujours là, mais un nouveau service de restauration a été mis en place. Pour en savoir plus, Pablo et Marion sont allés interroger notre chef préféré, Bruno, ainsi que Chabi, de la société 1001 Repas.
Bonjour Bruno! Que penses-tu du nouveau service de restauration?
Bonjour, c'est très bien. C'est ce qui est appréciable, c'est qu'on cuisine des produits frais. On est bien encadré. Toutes les questions que je pose, j'ai des réponses, positives ou négatives, mais j'ai des réponses.
Et quelles sont les principales améliorations?
C'est tout ce qui est frais, les viandes, légumes, et après, voilà, on est bien encadré.
Surtout, combien y aura-t-il de frites par mois?
Donc, comme vous en mangez assez souvent, une fois par mois, ça, je pense que ça vous suffira.
Bonjour Chabi, est-ce que vos produits sont locaux?
Bonjour. Alors, nos produits sont locaux pour certaines familles de produits. Essentiellement, donc, on va travailler avec des produits locaux sur les viandes de boucherie, donc, c'est-à-dire sur les viandes de porc fraîches, les viandes d'agneau, bœuf, et aussi sur les volailles. On travaille essentiellement voilà, avec des producteurs, donc avec Pascal Masson qui est à Swide, et aussi avec la maison Etchegoyen à Saint-Palais pour la volaille.
Quels sont les changements que vous avez apportés ici?
Essentiellement, je pense que c'est sur les approvisionnements et les produits qu'on utilise. On essaie de privilégier des produits bruts, donc des fruits, des légumes, des viandes, des volailles, etc. en frais, et aussi avec des produits locaux sur les laitages, donc les yaourts locaux, les yaourts fermiers, et aussi avec du fromage local.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Au revoir.
Afin de savoir si les élèves appréciaient le nouveau service de restauration, nous avons lancé un petit sondage sur Pronote. Peux-tu nous donner les résultats, Jeanne?
Mais avec plaisir, Thaïs. Eh bien, 70% des élèves interrogés ont répondu qu'ils préféraient le nouveau service de restauration. C'est bon signe. Bon, moi, j'aimerais bien un peu plus de frites, mais bon, ce sera mieux pour mon régime.
Parlons aussi de Noël qui approche à grands pas. À Saint-Amand, plusieurs propositions sont faites aux élèves pour le temps de l'Avent.
Tout d'abord, vous pouvez participer à une grande collecte de jeux et de jouets en très bon état ainsi que de sweats et de pulls au profit du Secours catholique de Bayonne.
Vous pouvez également participer à un concours de poèmes illustrés sur le thème de la joie de Noël et gagner une place de cinéma.
Enfin, les lundis 2, 9 et 16 décembre de 12h25 à 12h40, un temps de prière et louange sera animé par nos élèves musiciens à la chapelle. Tous ceux qui veulent participer à ce temps sont les bienvenus.
Allez, poursuivons maintenant avec l'actu mondiale.
L'actu mondiale.
On commence avec l'élection dont tout le monde a parlé pendant des semaines, celle du président des États-Unis.
Et oui, après des mois de suspense, c'est finalement Donald Trump qui l'a emporté le 5 novembre dernier.
Pour en savoir plus sur la manière dont les Américains ont vécu l'événement, Daphné a pu interroger Paul, son frère, qui passe actuellement une année à Boston où il est en classe de terminale dans un lycée. On les écoute.
Est-ce que tu as discuté avec tes élèves de ta classe des élections? Est-ce qu'ils t'ont donné leur avis? Si oui, pour qui étaient-ils?
Eh bien, les gens de ma classe, ils sont encore trop jeunes pour voter. Mais je sais que globalement, les familles aux alentours de moi ont globalement voté pour Kamala Harris, et comme dans tout l'état du Massachusetts dans lequel je suis maintenant.
As-tu vu beaucoup de monde aller voter?
Non, bah, le jour des élections. Alors en fait, aux États-Unis, on peut voter à partir de 2 ou 3 semaines avant l'élection, jusqu'au jour de l'élection, donc pas comme en France. Et je suis pas allé voir des gens voter, mais je sais que ma famille d'accueil est allée voter, bien sûr.
As-tu été surpris quand le nouveau président a été élu?
Oui, j'ai été un peu surpris, et partout ici, tout le monde a... Globalement, les gens dans mon état ont voté pour Kamala Harris, donc oui, ils étaient assez surpris de voir Donald Trump gagner.
Merci Paul et bonne année scolaire aux États-Unis.
Autre événement incontournable de ces derniers mois, les Jeux Olympiques de Paris. Vous n'avez pas pu passer à côté l'été dernier.
L'événement nous a tous plus ou moins marqués avec de beaux moments inoubliables. Alors, pour savoir ce que vous avez pensé, Camille et Gabin sont allés recueillir des confidences de quelques élèves. Écoutez-les.
Quel a été ton moment préféré des JO?
Mon préféré, c'était la cérémonie d'ouverture.
C'était la cérémonie de clôture.
C'était pendant le record du monde de saut à la perche d'Armand Duplantis.
La natation avec Léon Marchand, il est très très fort.
Quel a été ton sportif préféré?
Mon sportif préféré, c'était Quentin Mahé, le joueur de hand.
Léon Marchand.
Teddy Riner.
Simone Biles à la gym.
Avez-vous apprécié les cérémonies d'ouverture et de clôture?
J'ai beaucoup aimé. J'ai aimé la voiture avec toutes les peluches dessus.
Alors, la cérémonie de clôture, je ne l'ai pas regardée, mais la cérémonie d'ouverture, je l'ai trouvée bien.
Qu'avez-vous préféré entre les cérémonies d'ouverture et les cérémonies de clôture?
Ouverture. Bah, je préférais la cérémonie de clôture.
Avez-vous regardé les JO paralympiques?
Un peu, mais pas trop.
Un tout petit peu.
Oui, c'était très passionnant.
Quel sportif ou discipline avez-vous apprécié?
J'en ai pas de préféré.
Ah, de super souvenirs, mais bon, c'est déjà loin. Avec la rentrée, les championnats ont repris, alors passons tout de suite à l'actu sport.
L'actu sport.
Parlons rugby maintenant. Nous sommes au Pays Basque et comme chaque année, beaucoup d'entre nous suivons les exploits de leurs deux clubs favoris, l'Aviron Bayonnais en top 14 et le Biarritz Olympique en pro D2. Martin, que peux-tu nous dire en ce début de saison?
Eh bien, je tenais à rappeler que le Biarritz Olympique a cette année de nouveaux propriétaires qui apportent un souffle nouveau et positif pour l'avenir. Quant à l'Aviron Bayonnais, il a déjà bien entamé sa 4e saison de suite dans l'élite du rugby français, le top 14.
Alors, à Saint-Amand, on est plutôt Bayonne ou Biarritz?
Eh bien, pour le savoir, Paul et Gabin ont interrogé quelques élèves. C'est très partagé.
Bonjour. Pour qui es-tu entre l'Aviron Bayonnais et le Biarritz Olympique?
Je suis pour le Biarritz Olympique.
Que penses-tu de ton club?
Ils ont pas mal, ils ont fait un bon début de saison. Un petit temps faible, mais ils sont bien.
Moi, je préfère l'Aviron Bayonnais, ils sont meilleurs.
Que penses-tu de son début de saison?
Assez faible, mais je pense qu'ils vont pouvoir se rattraper.
C'est le Biarritz Olympique. Ils ont fait un très bon début de saison et pour l'instant, ils sont à la 3e place, ils sont bien.
Qui préfères-tu entre l'Aviron Bayonnais et le Biarritz Olympique?
L'Aviron Bayonnais.
Qui est ton joueur favori dans ce club?
Cyril Makala.
L'Aviron Bayonnais.
Et quel est ton joueur favori dans cette équipe?
C'est Camille Lopez.
Effectivement, et vous avez également diffusé un sondage sur Pronote. Quels sont les résultats?
Alors, 53% des élèves sont supporters de l'Aviron Bayonnais, 21% du Biarritz Olympique, 5% préfèrent d'autres clubs, et il ne faut pas les oublier, 21% des élèves ne s'intéressent pas au rugby.
Ah, évidemment, il en faut pour tous les goûts. D'ailleurs, certains préfèrent les médiathèques au stade et ils vont être bientôt ravis comme vous allez le découvrir.
L'actu local.
Après la médiathèque de Bayonne en travaux, depuis la fin 2023, celle d'Anglet a également fermé ses portes pour rénovation il y a quelques mois. Dans les deux villes, l'objectif est de proposer aux habitants de nouveaux espaces plus modernes et accueillants. Louison et Daphné ont mené leur enquête, alors les filles. Pour commencer, on pourra les découvrir quand ces nouvelles médiathèques.
Alors à Bayonne, la rénovation et extension avance, mais il reste encore beaucoup de travail. On annonce 3 ans de travaux, donc fin 2025, début 2026 si tout va bien.
Et à Anglet, le chantier a commencé cet été et on annonce une réouverture en 2027. Il va falloir être patient.
Effectivement, mais en attendant, comment font les habitués de ces deux médiathèques très fréquentées ?
À Bayonne, la médiathèque temporaire est installée place Émile Boes-Willaoult, tout près de la place Montaud et du site des travaux. Elle dispose d'un espace de 600 m² pour accueillir le public 6 jours sur 7.
Et à Anglet, la médiathèque temporaire a ouvert début septembre, aussi avenue Eugène Bernin. Elle propose un espace de 800 m² avec 90 000 documents disponibles et 9 ordinateurs à disposition des usagers. Les horaires restent les mêmes qu'auparavant.
Et quelles seront les grandes nouveautés une fois les travaux terminés ?
Pour Bayonne, il s'agit de rénover et d'agrandir un bâtiment datant des années 70, donc il y aura de gros changements. Déjà, la médiathèque va doubler sa surface avec notamment un étage. Il devra y avoir 2 terrasses en plus avec une vue sur la cathédrale. Et tous les espaces seront repensés pour les différents publics. Un espace ado et jeunesse, un pour la lecture, un pour la presse ou encore un autour du jeu. Il y aura aussi une salle de 80 places pour accueillir les événements culturels proposés par la médiathèque. Bref, un sacré changement.
À Anglet, la médiathèque va elle aussi être agrandie grâce à la démolition d'une maison juste à côté avec 600 m² supplémentaires. Une attention sera particulièrement apportée à la végétation autour du bâtiment pour rendre le cadre de vie plus agréable. Il y aura également 3 patios et un grand puits de lumière.
Eh bien, il va falloir être patient avant de pouvoir en profiter, mais ces deux nouvelles médiathèque devrait réjouir les habitants de Bayonne et d'Anglet. Merci Louison et Daphné, on passe à la Minute Anglaise.
La Minute Anglaise.
Welcome Pablo and Pablo, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? What tradition are you going to make us discover today?
Hello, today we'll talk about Halloween traditions.
First, little Pablo, what is Halloween?
Halloween is a traditional American holiday, but it's come from Ireland.
But Pablo, what are traditional things that people do for Halloween?
During Halloween, people usually make jack-o'-lanterns, which are usually made of pumpkins. Jack-o'-lanterns generally represent supernatural beings, or they are used to keep the evil spirit away.
And little Pablo, did you know that last year the Americans spent $12.2 billion for Halloween? Now you know that decorations, candies and costumes are very important. Everyone dresses up for Halloween.
Oh, really? What an interesting fact. And what about trick-or-treating? What is it?
During the evening on the 31st of October, people in costumes travel from house to house asking for treats with the sentence, trick-or-treat.
Oh, yes. That's right, and I remember that a treat is a candy and a trick is a prank.
There's also the village Halloween parade, which is a parade in Greenwich Village, a neighborhood of New York City. It's the world's largest Halloween parade and it's very much fun.
Cool, see you next year in New York then.
Thank you, Pablo. Merci à vous, à tous les deux. Mais Pablo, tu restes avec nous pour nous parler d'une autre tradition en espagnol cette fois.
La Minute Espagnole.
Hola Pablo, c'est encore à toi. ¿De qué vas a hablarnos hoy?
Hola, hoy voy a hablaros del Día de los Muertos. Esta fiesta, reconocida por la UNESCO, se celebra en América Central y en América del Sur, pero principalmente en México.
El Día de los Muertos, ¿qué es eso?
El Día de los Muertos es el equivalente de Halloween o el Día de las Brujas, aunque no sea exactamente lo mismo. Esta fiesta se celebra el 1 y el 2 de noviembre y sirve para demostrar el amor y el respeto a nuestros antepasados. Su origen remonta a las festividades aztecas, toltecas y otros pueblos nahuas, aunque haya sido transformada con la influencia del catolicismo.
¿Pero qué suele hacer la gente?
La gente suele bailar, comer y disfrazarse, pero también suele construir un altar en sus casas o en los cementerios. Ahí la gente pone comida, bebida, velas, fotos y flores para dar la bienvenida a los muertos al mundo de los vivos. Suelen disfrazarse con una calavera llamada la Catrina.
¿Y qué se come?
Existen varios dulces como el pan de muerto, que es un pan dulce típico, y las calaveras de azúcar. Pero también están las bebidas como el pulque, que es una bebida dulce fermentada, o también el atole, que está hecho de harina de maíz, canela, vainilla y chocolate caliente.
¿Sabes cómo se celebra el Festival del Día de los Muertos en Ciudad de México?
Cada año se celebra un enorme desfile en Ciudad de México. Este año el desfile se celebró el 27 de octubre de 2024. Ahora sabéis mucho sobre el Día de los Muertos.
Muchas gracias, Pablo.
Adiós.
A toutes ces fêtes, ça m'a donné faim. Heureusement, l'heure de la cuisine de Radio Star.
La cuisine de Radio Star.
Halloween, Dia de los Muertos, je crois que ça vous a inspiré, Jacqueline, Joseline et Géraldine. Qu'allez-vous nous proposer de bon aujourd'hui?
Oh non, je veux le jeu, mon dentier.
Quoi?
Eh ben, le jeu, mon dentier.
Tu as perdu ton dentier?
Oui.
Attends, je connais une personne originale qui va pouvoir t'aider.
Un dentiste?
Pas exactement. Suis-moi.
Bienvenue dans mon humble demeure.
Bonjour, Jocelyne. Mon amie Jacqueline a des petits problèmes de dentier. Tu pourrais l'aider, s'il te plaît?
Mais bien sûr. Seulement le prix à payer sera votre âme.
Mais bien sûr. Alors?
C'est une recette de dentier indétachable. Pour la faire, il vous faut un œuf, 85 g de sucre,
85 g de beurre, 150 g de farine,
100 g de pépites de chocolat, un sachet de sucre vanillé,
un sachet de levure chimique et une demi-cuillère de sel.
Laissez ramollir le beurre à température ambiante.
Malaxez-le avec le sucre, ajoutez l'œuf et éventuellement le sucre vanillé.
Versez progressivement la farine, la levure chimique, le sel et les pépites de chocolat.
Mélangez bien.
Recouvrez une plaque de papier sulfurisé.
Avec les mains, formez des noix de pâte et posez-les sur la plaque. Mettez au four pendant 8 à 10 minutes à 180 degrés, jusqu'à ce que le contour commence à brunir.
Sortez les cookies du four, coupez-les en deux et laissez-les refroidir.
Tartinez chaque demi-cookie de confiture de fraise. Placez 5 mini-chamallows sur la confiture, d'une moitié sur deux.
Posez les moitiés sans dents sur les moitiés avec dents et placez le dentier dans votre bouche. Ce dentier ne vous détachera jamais. Pas comme votre âme, je réclame mon dû.
Mais oui, attends une petite seconde.
Cours. Non, donnez-moi votre âme. Ah, qu'elle aille brûler en enfer.
Bon, j'espère que vous l'avez bien suivi. En tout cas, je vous l'assure, c'est un régal, l'idéal pour accompagner la lecture d'un bon livre ou bien devant un bon film. Alors vite, passons à l'actuculture.
L'actuculture.
Nous retrouvons maintenant nos deux critiques littéraires, Paul et Marion, pour nous parler d'une célèbre série de livres pour ados, Chérub.
Paul, toi qui as déjà lu ces livres, peux-tu nous dire de quelle histoire ça parle, Chérub?
C'est au départ l'histoire de James, un jeune garçon orphelin londonien qui est recruté par une agence de services secrets britanniques, appelée Chérub, pour mener des missions d'infiltration partout dans le monde. Cette agence a pour originalité d'employer des agents de 10 à 18 ans.
Combien y a-t-il de tomes dans cette série?
Il y a 17 tomes en tout, divisés en deux grandes parties. La première compte les 12 premiers tomes et la seconde les 5 derniers tomes.
Qui sont les personnages principaux ? Ce sont surtout des enfants, c'est ça ?
Oui, il y a énormément de personnages principaux, mais ceux qui sont les plus importants sont, dans la première trilogie, James Adams et sa petite sœur Lauren, et pour la deuxième trilogie, c'est Ryan, Léon et Daniel Sherman, de trois frères, et Funing.
Pourquoi trouves-tu cette série très chouette ?
Dans cette série, il y a beaucoup d'action, de romantisme et de suspense.
Intéressant. Pour quel lecteur recommandes-tu cette série ?
Moi, honnêtement, je recommande Cherub à partir de l'âge de 11 ans.
Est-ce que Cherub est facile à lire ?
Franchement, il est super facile à lire et il est très drôle. Bref, il se dévore.
Et où on peut le trouver ?
On le trouve dans toutes les bonnes librairies, en poche pour 7,50€.
Parfait, je sais ce que je vais lire maintenant. En plus, toute la série est au CDI, même pas besoin de l'acheter.
Côté cinéma, Camille, Maë et Loan ont eu la chance d'aller voir Beetlejuice. Et elles sont avec nous aujourd'hui pour nous présenter ce film. On vous écoute, les filles.
Bonjour à tous. Pour commencer, Loan, peux-tu nous rappeler par qui est réalisé ce deuxième film sur Beetlejuice ?
Il est réalisé par le célèbre Tim Burton, qui a aussi réalisé de nombreux films à succès, comme Alice au Pays des Merveilles, Édouard aux Mains d'Argent, Charlie et la Chocolaterie ou encore Batman.
Qui sont les acteurs principaux de Beetlejuice ?
Tim Burton a réussi le pari fou de faire jouer les mêmes acteurs que dans le premier opus, qui date de 1988.
On retrouve notamment le génialissime Michael Keaton dans le rôle de...
Stop, ne redites pas ce nom où il va apparaître.
Ah oui, mince, il faut faire attention. Le casting est aussi composé de Jenna Ortega, des inoubliables Winona Ryder et Catherine O'Hara, qui reprennent leur rôle de Monica Bellucci et de plein d'autres acteurs fantastiques.
Est-ce que Tim Burton reprend les ficelles utilisées dans le premier film ?
Oui, tout à fait. On est dans un monde fantastique, d'épouvante, d'horreur et surtout de comédie.
Mais... il faut avoir vu le 1 pour comprendre le deuxième.
Non, vous n'en avez pas forcément besoin. Mais c'est vrai, il y a pas mal de références au premier film qui peuvent aider à mieux comprendre le second.
Mais alors, quelle est l'intrigue de ce nouveau film ?
Après une terrible tragédie, la famille Dietz revient dans Winter River, dans la maison hantée, star du premier film. Toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia voit à nouveau sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, une adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail vers l'au-delà.
Alors que le chaos plane sur les deux mondes, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne prononce le nom de Beetlejuice trois fois et que ce démon farceur ne revienne semer la pagaille.
Qu'avez-vous pensé de ce nouveau film alors ?
Je l'ai trouvé génial. Il est à la fois étrange et très drôle.
J'ai beaucoup apprécié ce film car il y a de l'humour et les acteurs jouent très bien la comédie.
Excellent, j'ai adoré ce film du début jusqu'à la fin.
Eh bien, merci les filles, je crois que vous avez bien donné envie de le voir. Il va falloir attendre encore un peu pour le découvrir sur les plateformes. Mais si vous êtes pressés, il sera bientôt disponible en VOD.
Et voilà, cette première émission de l'année est terminée. Nous espérons qu'elle vous a plu et nous vous donnons déjà rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Radio Sta.
Au revoir et à très bientôt.
C'était